Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Lorsque la peur se manifeste en nous, elle nous place en état d'alerte. Tous nos sens sont en émoi, selon la grandeur et l'imminence de la menace, et aussi selon les personnes. Les réactions à la peur peuvent varier du tout au tout. Les uns sont paralysés par la peur, ou ils cèdent à la panique, quand les autres essayent d'évaluer la situation le plus vite possible. Faut-il affronter le danger ou faut-il le fuir? Plus le danger est grand, plus le nombre de ceux qui paniquent sans réfléchir augmente pour ne laisser place qu'aux quelques personnes qui se sont préparées et qui se sont entraînés à faire face. Depuis les exactions provoquées il y a quelques mois par un certain nombre de migrants en Allemagne, et depuis les attentats qui ont émaillé l'actualité en France encore récemment, le nombre de personnes qui se procurent des armes à feu ou qui s'inscrivent à des cours d'arts martiaux en Europe ne cesse d'augmenter. En particulier, dans ce contexte complètement anormal de radicalisation et de violence, il existe un art martial qui gagne de plus en plus en popularité, notamment auprès des jeunes femmes allemandes. C'est une méthode d'autodéfense assez violente, appelée le Krav Maga. Elle a été mise au point en 1964 par un militaire israélien du nom d'Imi Lichtenfeld. Il l'a développée pour les besoins de l'armée israélienne et des services spéciaux. Depuis, cette méthode a été enseignée dans le monde entier et elle est utilisée par les forces spéciales de nombreux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France. L'homme qui enseigne le Krav Maga en France, Richard Douyeb, disait que l'élève arrivé à un certain niveau de pratique apprend à évaluer le danger qui se présente immédiatement et très rapidement. L'attitude à adopter et les techniques employées peuvent changer complètement selon le nombre d'adversaires en présence et selon la façon dont ils sont armés. Autrement dit, dans la grande majorité des situations rencontrées, le combattant s'est déjà préparé à faire face aux différentes situations dans lesquelles il pourrait se retrouver, de manière justement à apporter la réponse appropriée en termes de techniques de combat. Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, je ne me suis pas décidé tout à coup à apprendre un art martial à mon âge, mais en comparant nos vies à celles d'un combattant, il y a de toute évidence une illustration spirituelle assez saisissante par rapport ou en rapport avec la vie chrétienne, en ce qui concerne notre préparation spirituelle face aux réels dangers qui peuvent nous menacer. Comme je le disais, plus le danger est grand, plus le nombre de ceux qui paniquent sans réfléchir augmente, pour ne laisser place qu'aux quelques personnes qui se sont réellement préparées et entraînées pour faire face à cette situation. D'où l'importance de notre préparation spirituelle dans tous les aspects de notre vie chrétienne, qu'elle soit paisible ou qu'elle soit plus difficile ou même plus chaotique par moments, et cela pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, qu'est-ce que la peur? Est-ce une maladie, une phobie, un sentiment anormal? Ou bien est-ce une émotion naturelle et utile qu'il nous faut seulement apprendre à maîtriser? Et si c'est bien le cas, comment la maîtriser et avec quels moyens? Je me souviens du récit d'un ami, un ancien combattant de la guerre d'Algérie en 1962, aujourd'hui devenu chrétien. Il me disait qu'au cours des combats, il a vu beaucoup de ses jeunes camarades inexpérimentés partir sous le feu ennemi pour tenter de secourir l'un des leurs qui était tombé et blessé, et il les a vus tomber à leur tour. Les félagas, les combattants algériens postés en embuscade, n'attendaient que cela pour ajuster leur tir. Les sous-officiers français avaient pour ordre d'interdire formellement de tels actes de courage, jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. En français, on dirait « Ah, il n'a écouté que son courage ». Autrement dit, il n'a pas écouté sa peur, et peut-être dans certains cas, il n'a pas écouté ou il a volontairement ignoré les ordres dans le but de sauver son camarade. La peur au milieu du danger est donc capable de nous pousser à toutes sortes de réactions. Elle peut nous paralyser complètement, Elle peut nous pousser à détaler comme des lapins, ou elle peut nous déterminer au contraire à ignorer complètement le danger et à commettre un acte de grande bravoure au péril même de nos vies. La peur peut avoir une grande puissance sur nos pensées, et donc sur nos décisions, ou plutôt sur nos réactions, lesquelles peuvent éventuellement être extrêmes, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit pour fuir, soit pour combattre. Parfois nous avons de bonnes intentions, mais une fois plongés au milieu de l'action, nous réalisons après coup que notre réaction n'a pas été celle que nous avions décidée. La crainte a été la plus forte. Sans la peur, ayons bien conscience que nous pourrions aussi causer des dommages irrémédiables à nos propres vies, et même à celles des autres. C'est là que la peur est synonyme de prudence, ou si vous préférez, c'est le bon côté de la peur. On parle d'une peur salutaire. C'est la crainte qui nous empêche de nous approcher trop près d'un précipice, par exemple. C'est un sentiment naturel qui nous évite de commettre toutes sortes d'actes inconsidérés. Dieu pourrait permettre que nous vivions toujours dans une parfaite tranquillité et dans une certaine abondance, sans avoir jamais le moindre problème, sans jamais ressentir la moindre peur, la moindre crainte pour nos vies, et ce, jusqu'à l'avènement final de Jésus-Christ. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Dieu, il est vrai, bénit constamment ses enfants, d'abord parce qu'il nous l'a promis, lorsque nous agissons selon ses commandements, et aussi parce qu'il nous aime, bien entendu, et qu'il nous chérit. Mais pour la même raison, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous chérit, Dieu permet aussi que nous traversions une certaine adversité, un certain nombre de difficultés. Mais, vous allez me dire, mais pourquoi? Pour quelle raison Dieu permettrait-il cela? Dans quel but? Eh bien, comme le disait le philosophe anglais, Sir Francis Bacon, la prospérité révèle nos vices et l'adversité nos vertus. Je répète cette citation, la prospérité révèle nos vices et l'adversité révèle nos vertus. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, le spectacle auquel nous assistons précisément dans la vie publique, avec toutes ces accusations de corruption qui frappent certains parmi les hommes et les femmes politiques qui nous dirigent? Le trop-plein de prospérité, semble-t-il, a fini par avoir raison de leur intégrité, si tant est qu'il y ait eu une intégrité à un moment donné chez eux. Et cette prospérité, avec une tentation de plus grande prospérité à acquérir immédiatement, juste à portée de la main, finit par révéler les vices plus ou moins cachés. Mais n'est-ce pas aussi, soyons honnêtes, n'est-ce pas aussi le spectacle auquel nous assistons dans nos propres vies? Quand nous constatons, par exemple, qu'avec les bénédictions de Dieu, qui ne manquent pas d'être déversées sur nous tous, sur celles et ceux qui obéissent à Dieu, avec le temps qui passe, et avec un peu plus de confort, un peu plus d'aisance, un peu plus de moyens, et tout à coup, un jour, nous finissons par apercevoir un vice qui restait caché en nous, mais qui montre maintenant sa tête hideuse. Ça peut être l'orgueil, ou bien ça peut être le manque de générosité. Oui, tant que nous sommes humains, la prospérité révèle, un jour ou l'autre, quelques-uns de nos vices. Heureusement, dans le royaume de Dieu, la prospérité sera distribuée sans risque, largement, et elle cessera d'être un révélateur de nos vices cachés, car il n'y aura plus de vices. Les enfants de Dieu nés dans le royaume seront purifiés, ils ne pourront plus jamais pécher, et ils connaîtront alors, et pour l'éternité, une prospérité sans fin et sans vice. Nous reconnaissons donc, frères et sœurs, qu'aujourd'hui même, la prospérité est utile dans nos vies. Certes, d'abord, pour bon nombre de raisons que nous n'aurons pas de mal à trouver, j'en suis sûr. Après tout, un peu de répit est tellement appréciable dans ce monde agité. Mais nous voyons aussi que la prospérité peut être utile justement pour en savoir plus sur ce qui ne va pas chez nous, sur ce qui a besoin d'être corrigé en nous. Toutefois, ne croyons pas que ceux parmi nous qui vivent la plus grande partie de leur vie dans une certaine aisance, dans un certain confort, parce qu'ils ne connaissent pas l'indigence ou qu'ils ne connaissent pas la pauvreté, ne connaissent pas non plus un certain nombre d'autres épreuves. Ils passent, eux aussi, par des épreuves, d'autres épreuves. Reportons-nous à Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 12. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Nos vies sont différentes, tous autant que nous sommes, et Dieu sait ce dont nous avons besoin personnellement, nous, personnellement, chaque personne, chaque chrétien. Il veut que nous soyons dans son royaume. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12, l'apôtre Paul nous montre qu'il était heureux de pouvoir profiter des bénéfices apportés par toutes sortes de circonstances dans sa vie. Et il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Nous aussi, soyons satisfaits, soyons contents dans l'abondance, à la fête, ou lorsque Dieu déverse ses bénédictions à d'autres moments de l'année. Et Dieu nous montrera peut-être, à travers ces moments d'abondance, un jour ou l'autre, tôt ou tard, ce que nous avons besoin de voir, d'identifier, un vice que nous avons besoin d'enlever de nos vies. Il nous faut l'enlever. Paul connaissait les épreuves, il connaissait par moments une certaine humiliation, et il nous dit dans ses versets qu'il sait vivre dans l'humiliation. Les apôtres ont vécu, eux aussi, de nombreuses situations similaires, les prophètes d'eux-mêmes, et parmi ces situations, ces disettes, ces inconforts, ces moments où ils ont même cru perdre la vie, mais où Dieu est intervenu au bon moment en leur faveur, nous pouvons être certains qu'ils éprouvaient des doutes et de la peur. Alors, l'adversité révèle nos vertus, comme disait Francis Bacon. Et avec ces adversités, ces peurs qui surgissent au-dedans de nous, par moments dans nos vies, nous avons l'occasion de construire des vertus chrétiennes. Nous traversons une zone dangereuse, la crainte de perdre un emploi. Ça peut être aussi la crainte d'une opération chirurgicale ou le stress. Et le stress augmente. Et parfois, ce stress est tellement fort qu'il joue sur notre santé physique même. Nous voilà au milieu d'une épreuve. Et elle sera passagère, ou peut-être elle durera un peu plus longtemps, mais au final, elle aura produit un poids inestimable de caractère. Cette vertu chrétienne qui nous permet de dire non quand il le faut. Parce que Dieu aura permis que nous tenions bon et que nous puissions aller jusqu'au bout du terme qui nous est assigné et dont nous ne connaissons pas la durée bien souvent. L'apôtre Jacques nous le rappelle dans son épître au chapitre 1 et dans les versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2, 3 et 4. Il dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Les épreuves, et en particulier les différentes peurs que nous pouvons ressentir, peur du chômage, peur d'une opération, peur de la maladie, ou même la simple peur d'un entretien avec son patron, ou la peur de prendre la parole en public. Toutes ces peurs à leurs échelles, toutes ces épreuves, dans leur intensité, sont utiles dans nos vies pour produire des vertus chrétiennes et pour produire la foi. Dans la Bible, nous trouvons des passages qui nous montrent que la peur peut contribuer soit à l'obéissance envers Dieu, soit au contraire à la désobéissance. Dans 2 Samuel, chapitre 1, et verset 14, David s'adresse à un jeune Amalécite qui s'est rendu coupable d'un régicide, c'est-à-dire du meurtre d'un roi, un crime extrêmement grave. L'outrance est telle qu'il lui demande comment il est possible qu'il n'ait pas eu peur de porter atteinte à la vie du roi. La crainte des conséquences aurait dû effectivement le raisonner et l'empêcher de commettre un tel crime. Et David lui dit dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 14, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et en conséquence, David le fait exécuter. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, et dans les versets 1 à 10, nous trouvons un récit comparable. Mais cette fois, le contexte criminel est différent. La gravité de l'offense, là encore, est extrêmement élevée, et l'apôtre Pierre s'adresse d'une façon similaire à Ananias. Il lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Ce que nous pouvons comprendre par « Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur ?» Et Ananias porte évidemment une responsabilité capitale dans ce processus. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Comment Ananias, donc, n'a-t-il pas eu peur de commettre une telle chose, de permettre à son esprit de concevoir un pareil plan, malgré la présence du Saint-Esprit, semble-t-il, qui ne cessait de l'encourager à renoncer à un tel projet? Comment a-t-il pu prendre cette décision et passer à l'action? Le moment était venu pour Ananias de perdre sa vie physique, dans l'espoir que sa vie spirituelle et éternelle soit sauvée. Nous avons tous des tempéraments différents, et en plus, nos vies sont différentes. Tous, nous traversons des expériences différentes. Certains d'entre nous ont probablement vécu des situations particulièrement stressantes ou dangereuses, et parfois ces situations peuvent arriver très tôt, et elles peuvent marquer nos vies, très jeunes, d'une façon presque indélébile. Il est difficile d'oublier certains traumatismes, même avec les années, où il peut s'agir d'une crainte plus bénigne, comme par exemple, comme je le disais, la crainte de s'exprimer en public ou de prononcer un discours devant une assemblée. Ce genre de crainte peut être surmontée. Revenons à ces deux récits. Pourquoi ces deux hommes sont-ils morts si brutalement? Qu'est-ce qui leur manquait de si important pour qu'ils connaissent une telle fin? Rappelez-vous, ils n'ont pas eu peur de commettre un mensonge, l'un devant loin de l'Éternel, et l'autre devant Dieu lui-même. Dans les deux cas, ils ont tous les deux fait preuve d'un terrible manque de respect envers Dieu. Ce respect envers Dieu qu'il faut toujours préserver à tout prix, c'est justement la bonne sorte de crainte que la Bible nous enseigne. La Bible nous révèle en effet qu'il existe une crainte tout à fait raisonnable et particulièrement exceptionnelle qui nous permet d'éradiquer toutes les peurs trompeuses, les fausses peurs, les peurs destructrices, qui peuvent se présenter à nous. Cette crainte saine, qui est le respect envers notre Créateur, nous met sur le chemin de la connaissance spirituelle et de la sagesse. C'est la première démarche à laquelle il nous faut procéder dans notre processus de conversion. Dans Proverbes, chapitre 1, verset 7, nous lisons que « la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction ». De même, dans Psaume 111, verset 10, nous lisons à peu près la même chose, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine, la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. » Regardez comment le roi David s'adresse à Dieu, alors qu'il est précisément assailli par toutes sortes de peurs trompeuses, destructrices, et regardez aussi la délivrance que David obtient de Dieu. Dans Psaume 7, les versets 1 et 10, Nous lisons « Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs, délivre-moi. » Et verset 10 « Mon bouclier est auprès de Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Psaume 18, versets 1 à 6. Psaume 18, versets 1 à 6. « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » David ne reçoit pas la délivrance de Dieu parce qu'il est le roi d'Israël, mais il crie vers Dieu, il supplie Dieu d'intervenir. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons faire entendre nos supplications lorsque nous prions. Avons-nous des soucis, des tourments, des problèmes de communication? Il faut que notre cœur retentisse devant Dieu, il faut que Dieu voit que notre supplication est sincère. Lorsque nous sommes dans notre endroit privé, dans notre chambre, seul, et que nous pouvons prier Dieu en toute intimité, n'ayons pas peur d'épancher notre cœur et d'exprimer devant Dieu ce qui nous fait de la peine, ce qui nous ennuie, ce qui nous gêne, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous décourage. Allons jusqu'au bout, dans les détails, cherchons bien à lui dire tout ce qu'il y a à dire. Bien sûr que Dieu sait toutes ces choses, mais il faut que notre cœur le lui dise, avec sincérité, avec vérité, dans les détails, et jusqu'à ce que nous ayons épuisé le sujet. Il faut vraiment que nous essorions littéralement notre cœur, comme la machine à laver essore le linge, ou que l'eau ressort du linge quand on le tord. Sommes-nous sûrs d'avoir tout dit à Dieu de ces problèmes, de ces peurs dont nous voudrions être délivrés? Relisez les prières de David, regardez comme il donne des détails. Ce n'était pas pour faire du remplissage ou pour écrire un livre de psaumes consistant. Ces prières étaient sincères, elles étaient faites au sujet de situations précises avec des détails précis que David donne au sujet de son cœur. David savait qu'il devait exposer toutes ces choses devant Dieu. C'est ainsi que la foi peut s'exprimer. Nous donnons tous ces détails à Dieu concernant nos problèmes, parce que nous avons la certitude que Dieu va intervenir. Nous le savons. Mais il faut que nous le fassions. Il faut faire cette démarche. Il faut avoir ce rendez-vous, cette réunion quotidienne, en quelque sorte, avec Dieu, où nous pouvons exposer tout d'abord notre gratitude, notre reconnaissance, et bien sûr aussi tous nos espoirs, toutes nos requêtes. Dans Matthieu, au chapitre 28, verset 20, Jésus conclut son message avec une promesse extraordinaire qu'il adresse à tous ses disciples. Il leur dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Toutes nos peurs peuvent trouver une solution. Notre Dieu est prêt à nous en débarrasser. Nous devons avoir confiance en lui et nous devons avoir foi en sa délivrance. Alors une fois que nous ressentons un profond respect pour Dieu et que nous avons ensuite confié nos espoirs à Dieu, que nous lui avons exposé toutes nos craintes, nos peurs, nous devons continuer d'avoir foi en Dieu. Nous devons avoir confiance en lui et garder en nous la certitude que Dieu nous délivrera et qu'il a déjà répondu à notre prière. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, effectivement, Jésus-Christ nous dit ceci, Marc, chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prier, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, nous disons que c'est l'Éternel qui parle, celui qui allait devenir Jésus-Christ plus tard, Et il nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans Jérémie, Jérémie chapitre 32, verset 27, je vais lire dans la version Martin de la Bible. Jérémie chapitre 32, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile ?» C'est une déclaration absolument merveilleuse. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Ici, l'apôtre Jacques nous donne des conseils et il nous fait bien remarquer que nous ne devons pas douter lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous, dit-il, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Vous voyez, si nous laissons la peur reprendre le dessus en oubliant de continuer à entretenir notre relation avec Dieu, la peur risque effectivement de l'emporter sur la foi. Nous ne devons pas en arriver à ce point. Nous devons continuer à entretenir notre foi par la prière, par l'étude de la parole de Dieu et par le jeûne. Autrement dit, nous devons continuer notre vie chrétienne sans nous laisser submerger par la peur, et nous continuons aussi dans nos prières à demander plus de foi. Les apôtres avaient besoin de plus de foi. Déjà, avant leur baptême, ils demandaient à Jésus d'avoir plus de foi. Dans Luc chapitre 17, verset 5, nous lisons que les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et dans Marc chapitre 9, verset 24, le père de cet enfant que Jésus s'apprêtait à guérir s'apercevait qu'il manquait de foi. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nous avons besoin de Jésus-Christ pour qu'il nous renforce dans notre foi. Nous avons vu que la foi s'oppose à la peur et qu'elle lui barre la route. La paix d'esprit aussi s'oppose à la peur. Et Dieu donne son esprit, nous le savons, à ceux qui se repentent et qui sont baptisés, Actes chapitre 2, verset 38. Et nous savons aussi que un fruit de son esprit, c'est la paix d'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Paul a également écrit sous l'inspiration divine que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et nous trouvons ce verset dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Je viens de lire la traduction œcuménique de la Bible. L'Esprit de Dieu nous permet de contrôler notre façon de penser et de faire les bonnes choses, pour les bonnes raisons. En conséquence, lorsque la peur fait son apparition, et elle peut faire son apparition, c'est le moment de renforcer notre lien spirituel avec Dieu. Comment ? Eh bien, comme nous l'avons vu, par la prière, c'est le moment où nous nous adressons à Dieu, et par l'étude de sa parole, c'est le moment où Dieu nous parle, où il s'adresse à nous pour nous réconforter et pour nous encourager. C'est un véritable dialogue vivant qui s'installe entre nous et Dieu. Grâce à l'Esprit de Dieu en nous, nous ne restons pas orphelins. Nous sommes adoptés, et Dieu entend nos prières, et si telle est sa décision, il peut répondre très rapidement. Donc, recherchons l'Esprit de Dieu, demandons à Dieu son Saint-Esprit, demandons-lui de renforcer la portion de Saint-Esprit que nous avons reçue. Et c'est la même chose concernant la foi. Demandons à Dieu de renforcer notre foi. Dieu sait comment nous pouvons grandir dans la foi. Notre confiance en Dieu est basée sur ses promesses et sur sa fidélité. Le chapitre de la foi que nous connaissons bien, le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, est rempli d'histoires d'hommes et de femmes qui ont grandi en croyant que Dieu ferait exactement ce qu'il a promis. Leur confiance dans le Dieu fidèle les a aidés à faire face à leur peur et à agir avec foi. Dieu les a aidés à attendre patiemment et à supporter courageusement des épreuves terrifiantes. Le plus grand exemple de foi est certainement celui de Jésus-Christ lui-même. Aussi, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous avons les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, frères et sœurs, pour croître dans la foi, nous devons continuer d'avoir confiance en Jésus-Christ. Il est dans ce verset celui qui suscite la foi et la mène à la perfection. Dans la Bible, en français courant, nous lisons le même verset de cette façon. Jésus-Christ est celui dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Il est aussi celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite, selon l'expression encore plus explicite trouvée dans la version Parole de vie. Ou encore, il est celui qui, dans cette course de la foi, est notre chef de file, et il nous mènera au but, selon la version de la Parole vivante. Toutes ces versions sont utiles pour donner un éclairage intéressant dans l'étude et dans la bonne compréhension de ce verset. Et j'en profite pour rappeler que la version que nous préférons toutefois dans l'Église de Dieu Association Mondiale, c'est la nouvelle édition de Genève, par décision ministérielle. La traduction y est déjà très compréhensible. Jésus est en effet celui qui suscite la foi, autrement dit qu'il la fait naître, et qui l'amène à sa perfection, qui l'amène à son aboutissement, à sa perfection. Ce qui veut dire exactement la même chose, mais avec d'autres mots, avec une perspective différente. Alors c'est donc notre but dans cette vie, de laisser Jésus-Christ, le capitaine de notre salut, nous modeler comme le maître potier. Dans cette œuvre, il est en effet absolument magistral. Il est notre créateur. Personne ne saurait le surpasser, si ce n'est, bien entendu, le Père. Il sait donc exactement ce dont nous avons besoin et à quel moment nous en avons besoin, dans les moindres détails. Il est doux et il est bon, il est compatissant. Ayons confiance en lui. Il a vécu tout ce que nous avons vécu. Je veux dire qu'il est déjà passé par toutes les épreuves humaines qui nous ont affligés et par lesquelles nous passons. Il sait ce que nous ressentons. Permettons-lui donc de continuer ce processus de perfectionnement de la foi en nous. Soyons de tout cœur avec lui dans ce processus. Ne lui résistons pas. Déjà, nous l'avons laissé faire. Nous l'avons laissé faire naître cette foi en nous. Nous lui avons permis de faire naître cette foi en nous. Nous ne lui avons pas résisté. Aussi, il nous faut continuer à le laisser faire croître cette foi en nous. À sa façon. Laissons-le perfectionner cette foi en nous. Ne nous opposons pas à son œuvre. À sa façon, à travers les aléas de nos existences et sans nous opposer à lui. Voilà, frères et sœurs, notre carrière, voilà notre but. Et à partir de cette étincelle initiale de foi que nous avons reçue de lui au moment de l'appel que notre Père éternel nous a lancé, car c'est une décision qui vient du Père de nous appeler, Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, dans ce processus de la conversion d'un véritable chrétien, nous comprenons que, premièrement, notre Père éternel nous attire. Autrement dit, il nous appelle. C'est ce que nous avons coutume d'appeler, justement, l'appel. Deuxièmement, Jésus-Christ fait naître la foi en nous. Et troisièmement, Jésus-Christ nous perfectionne dans la foi. Il rend cette foi parfaite en nous. Et nous reconnaissons bien sûr que nous n'en sommes certainement pas encore arrivés à ce point. Mais remarquez-le, c'est une promesse extraordinaire et merveilleuse. Et enfin, quatrièmement, Jésus-Christ nous ressuscitera au moment de la première résurrection, au dernier jour, à la septième trompette, et ainsi nous serons toujours avec notre Seigneur, le Roi et le Sauveur Jésus-Christ, pour l'éternité. Et il nous présentera à son Père, notre Père éternel et souverain, notre Dieu suprême, qui reçoit aujourd'hui nos prières quotidiennement. Ainsi nous reconnaissons, frères et sœurs, aujourd'hui, que lorsque nous prions notre Père tous les jours, nous pensons à lui demander ces choses vitales dans notre existence, dans notre parcours chrétien. Nous pensons à demander à notre Père la foi de Jésus-Christ, avec aussi bien sûr l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu. Ce sont les trois vertus spirituelles dont nous avons besoin tous les jours, lorsque nous nous levons ou avant de partir au travail. Nous avons déjà foi en Dieu, nous avons foi en Jésus-Christ. Mais nous demandons la foi de Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'initiateur de cette foi. Il l'a fait naître en nous, et il est le consommateur de cette foi. Il est celui qui l'amène à sa perfection, pour notre salut. Voilà comment nous croissons dans la foi. Avec cette foi, frères et sœurs, nous le savons, nous n'aurons jamais peur. Nous n'aurons jamais cette crainte des hommes, cette peur que nous devons laisser tomber dans les oubliettes de nos vies. En attendant d'acquérir cette foi parfaite, nous avons encore un bout de chemin à parcourir dans cette existence. Alors tout en laissant notre Seigneur Jésus-Christ perfectionner cette foi en nous, à travers la vie que nous menons, que pouvons-nous faire pour nous rallier de tout cœur à ce processus? Eh bien, comme les anciens fidèles le faisaient, les chrétiens qui ont vécu à travers les âges, nos frères et sœurs du passé, nous devrions nous concentrer non sur ce monde épouvantable dans lequel nous vivons, mais sur le monde nouveau qui nous est promis, sur l'avenir extrêmement glorieux et positif que Dieu a en réserve pour nous et pour toute l'humanité. Paul nous encourage à nous concentrer déjà sur ce qui est positif. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, retournons dans Philippiens, le chapitre 4, verset 8. Paul dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il y a tant de sources négatives dans la société actuelle. C'est à nous de les laisser dans les oubliettes, autrement dit de laisser, de permettre à notre esprit d'être rempli, de permettre à notre esprit d'être rempli avec ces choses négatives. Vous voyez, en cherchant mieux, nous pouvons vraiment faire le tri de ce que nous laissons entrer quotidiennement dans nos pensées, dans notre mémoire. Ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons a une grande influence sur nos pensées. Aussi, l'apôtre Paul nous demande de faire attention à ce que nous laissons entrer en nous et de nous concentrer sur tout ce qui est bon et positif. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et les versets 16 à 18. Il y a quelque chose de très important dans nos prières, quelque chose que nous devons absolument inclure dans nos prières. Nous devons être reconnaissants. L'importance de la reconnaissance envers Dieu est capitale pour le chrétien. Et Paul nous le dit dans ces versets, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, dit-il. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que nous apprenions à être reconnaissants. C'est d'une importance fondamentale dans cette relation personnelle que nous entretenons quotidiennement avec notre Créateur Dieu. Pour comprendre cela, eh bien, il nous suffit de nous demander tout simplement ce que nous penserions de quelqu'un pour lequel nous avons fait des sacrifices, quelqu'un au sujet duquel nous avons passé du temps, nous sommes préoccupés de cette personne. Et c'est une personne qui ne manifesterait aucune gratitude. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut manifester ouvertement et constamment sa désapprobation face à quelqu'un qui ne fait pas preuve de reconnaissance. Tout dépend des circonstances. Et en général, il est toujours d'ailleurs préférable de laisser la personne se rendre compte elle-même de son ingratitude. Peut-être aussi a-t-elle besoin de nos prières afin que Dieu lui montre quel changement d'attitude et quelle bonne conduite adopter. Mais nous comprenons que la reconnaissance est fondamentale dans la construction des bonnes relations. Il est donc naturel que nous pensions à ne pas oublier de remercier Dieu, c'est-à-dire de rendre grâce à Dieu. Nous rencontrons souvent cette expression dans la Bible. C'est ce qu'elle veut dire. Rendre grâce, c'est remercier, c'est faire preuve de reconnaissance, c'est reconnaître devant Dieu que c'est lui qui nous apporte toutes ces choses que nous appelons bénédictions. Toutes les bonnes choses de la vie dont nous pouvons encore profiter, une bonne santé, un travail, un bon repas, l'occasion de pouvoir être ensemble, de pouvoir voyager. Je pourrais faire une liste qui durerait 2 heures et je n'en aurais pas terminé. Toutes ces choses, c'est Dieu qui nous les donne, car Dieu est notre Créateur. Il a fait toutes choses et il les a faites pour le bien de l'humanité. Mais sommes-nous reconnaissants pour tout cela? Pour faire d'une reconnaissance sincère envers Dieu, nous pouvons méditer sur la paix et sur le confort, ou le réconfort que Dieu nous donne maintenant dans l'Église et à notre époque. Voilà ce qu'il nous faut pour faire preuve d'une reconnaissance sincère envers Dieu. Une fois notre prière exprimée avec reconnaissance et avec sincérité, nous devons ensuite passer à l'action. C'est-à-dire que nous devons agir avec foi dans l'obéissance à Dieu, car la foi sans les œuvres est inutile, comme le dit Jacques dans son épître, Jacques chapitre 2 verset 20. Si nous nous concentrons sur la parole de Dieu et sur ses promesses éternelles, plus que sur des circonstances physiques temporaires dans cette vie, nous allons permettre à notre foi d'augmenter et de faire diminuer notre peur. Sur notre chemin spirituel, nous ne devons jamais oublier le respect fondamental pour notre Seigneur et notre vénération pour lui. La reconnaissance de notre dépendance envers lui. Cette perspective devrait nous conduire à une appréciation, une louange. Elle devrait nous permettre d'exprimer un amour plus profond du Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons. Il nous aime tellement qu'il a même donné son propre Fils en sacrifice. Notre relation avec Dieu se développe donc sur cette base. Comme l'écrit Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 19, 1 Jean, chapitre 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. » Et qu'est-ce que produit cet amour de Dieu en nous? L'apôtre Jean a résumé le but ultime de l'amour, du véritable amour, de l'amour de Dieu, de cette façon, dans le verset précédent, 1 Jean, chapitre 4, verset 18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » En conséquence, la peur est vaincue, et nous cessons d'avoir peur inutilement. Je dis bien « inutilement », car il reste encore une peur utile. Jésus-Christ nous fait comprendre que s'il y a une seule chose que nous ayons à craindre dans cette vie, c'est la peur dont il parle dans Matthieu au chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Jésus nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mais si nous obéissons à Dieu, si nous lui obéissons, nous n'aurons aucune crainte de paraître en sa présence. Nous lisons en effet dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Notre chemin est donc tout tracé. Nous devons suivre les pas de Jésus-Christ, nous devons obéir à Dieu, nous devons apprendre à lui permettre de vivre en nous, à accomplir le perfectionnement de la foi en nous. Pour conclure, nous pouvons donc, nous le reconnaissons, nous pouvons donc aller en prière au devant de Dieu avec nos peurs. Nous pouvons rechercher plus de son Saint-Esprit. Nous pouvons grandir dans la foi en sa capacité de vaincre tout ce qui nous menace. Nous pouvons trouver le réconfort et la sécurité dans les soins affectueux de notre grand Dieu. Je vous souhaite, frères et sœurs, à tous et à toutes, un excellent sabbat.